À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Trouver un souffle nouveau pour traverser le mi-temps de la vie », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous continuons donc notre réflexion, notre approfondissement de la traversée du milieu de la vie. Je préfère parler de transition plutôt que de crise, même si pour certaines personnes, cela peut impliquer une crise. Et la dernière fois, nous avons considéré les étapes que souvent on traverse lors d'une transition du milieu de la vie. Bon, c'est une façon de présenter les choses par étapes, et en fait, chronologiquement, ça se vérifie assez bien, mais nous savons bien que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes uniques, et qu'il n'y a pas deux transitions du milieu de la vie qui sont identiques. Tout ça dépendra de l'histoire de chacun, de l'expérience qu'il a faite dans son enfance, l'équilibre auquel il est arrivé à 40-45 ans, les défis qu'il a rencontrés, la situation de son couple, sa situation professionnelle, etc. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas non plus de parcours obligé. Mais il y a tout de même, par expérience, un certain nombre d'étapes en général que l'on a franchies pour en arriver là. La première étape d'ailleurs, bon, je l'ai évoquée la dernière fois, c'est en fait une étape préparatoire puisqu'elle concerne la première moitié de notre vie où nous avons dû donc nous construire notre personnalité au fur et à mesure que l'on grandissait et à partir de l'adolescence et par la suite, notre personnalité qui nous permettait de nous faire reconnaître socialement, de réussir professionnellement, de fonder un foyer, de gérer ses enfants, etc., etc. Et donc nous avons vu que cette traversée du milieu de la vie est un événement normal qui rentre dans une série d'étapes que toute personne humaine normalement traverse de sa naissance à sa mort et que ce qui est surtout important dans tout cela, c'est d'essayer de vivre cette étape sans la nier de la façon la plus consciente en acceptant un certain nombre de défis et donc d'appels au changement et en étant attentif aux résistances qui sont d'ailleurs normales lorsqu'on est face à des changements et que ces changements peuvent entraîner des risques et peut-être une mise en question de votre sécurité telle que vous fonctionnez jusqu'aujourd'hui, même si votre visage d'aujourd'hui ne vous satisfait pas et vous sentez un appel à changer et à évoluer. Donc cette première étape, c'est celle de l'adaptation, de l'accommodation aux besoins donc de votre vie personnelle, familiale, sociale, qui débouche sur... Alors là, l'entrée dans la transition du milieu de la vie qui peut alors s'inaugurer par une prise de conscience. Prise de conscience que dans le fond, malgré tous les efforts que l'on a faits, tous les résultats qu'on a obtenus, bons ou moins bons, il y a quand même dans le fond de notre être une certaine insatisfaction. Un certain vide, une démotivation qui fait que tout devient beaucoup plus lourd. Alors ça peut être lié simplement à une sorte de pesanteur qui s'installe, un problème de sens, un questionnement aussi sur est-ce que je vais encore être capable de vivre ce mode de vie dans mon couple, dans mon métier, dans ma vie sociale, etc. pendant 20 ou 30 ans, ou bien est-ce que il faut maintenant que je remette les choses en question. Et donc là, je dirais, c'est une sorte de processus naturel qui entre dans ce que Jung appelle le processus d'individuation, notre parcours humain depuis notre naissance, ou bien est-ce que c'est provoqué par des événements qui peuvent être le deuil d'un être cher, un échec amoureux, un échec professionnel, etc. Des événements qui, tout d'un coup, me révèlent ma fragilité. Donc, ça, c'est la deuxième étape, la prise de conscience, et nous en étions arrivés à la troisième étape qui est faire face. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut reconnaître que si je ne regarde pas en face la réalité, je risque de rester très malheureux et de me promener avec une insatisfaction, une pesanteur, peut-être une inertie, un sentiment d'échec, un sentiment d'inadaptation. Je n'ai plus la même, je ne retire pas la même joie de ma vie de couple ou de ma vie de parent ou la même valorisation dans mon travail professionnel. Et là, c'est le moment de faire face. Et nous verrons que certains ne font pas face. Et c'est difficile après parce que il y a, si vous voulez, cette poussée d'une force en nous qui est justement cette force de notre processus d'individuation. Je rappelle que ce qu'on appelle le processus d'individuation, c'est cette croissance progressive de notre être authentique depuis notre naissance jusqu'à notre mort, d'une certaine façon, qu'on lie parfois à ce que Jung appelle le « soi », avec un S majuscule, cet être profond que je suis, par opposition au masque, à la persona, ou une personnalité construite. Bon. Donc voilà, je constate que je ne suis plus bien dans ma peau, je n'ai plus l'équilibre que j'avais auparavant, je vis des tensions, je vis des sentiments qui me bousculent beaucoup, et là, je voudrais renvoyer à ce que j'ai dit aussi à propos de l'intelligence émotionnelle dans l'émission précédente, où je vous rappelle que une de nos richesses, c'est cette vie émotionnelle qui nous dit plein de choses sur la façon dont nous gérons bien ou mal nos besoins. Et donc, au moment justement de faire face, c'est le moment de regarder et de prendre conscience de ce qui, au niveau de ma vie, des sentiments et des émotions, me bouscule. Peur, tristesse, colère, insatisfaction, vide, ça me dit quelque chose. Et des sentiments forts me renvoient toujours à des besoins fondamentaux qui, alors, sont plus ou moins bien gérés. Et c'est ce qu'il faut aller voir. Parce que c'est quand je vais voir quels sont les besoins qui sont concernés par ce mouvement émotionnel en moi que je peux voir où sont, dans le fond, les appels à aller creuser un petit peu à la racine de mon trouble aujourd'hui. Il y a donc un certain lâcher-prise à vivre à ce moment-là sur nos certitudes, et c'est insécurisant, mais qui peut déboucher sur un consentement à la réalité à partir de laquelle je peux construire du neuf. Parce que dans ce consentement à la réalité, c'est aussi reconnaître qu'il y a des dimensions en moi que j'avais laissées en friche dans le passé et que je pourrais bien laisser revivre ou vivre sans forcément renverser tous mes équilibres et tous mes engagements du milieu de la vie, mais peut-être en réajustant un certain nombre de mes priorités, ce qui va faire que je vais retrouver un goût à la vie, une ouverture vers de la nouveauté, une nouvelle forme de fécondité, on parle même de générescence, de pouvoir donner de la vie à d'autres, etc. En tout cas, ce qui est angoissant, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ça peut être une mère de famille qui a donné vraiment le meilleur d'elle-même à ses enfants et qui, au bout d'un petit temps, surtout quand les enfants commencent à quitter la maison, se disent « mais dans le fond, à quoi a servi ma vie ? Avec tout ce que j'ai sacrifié pour mes enfants, j'ai peut-être sacrifié une vie professionnelle, ou bien si j'ai un métier, je n'ai pu faire ce métier qu'à mi-temps, ou bien même si j'ai fait ce métier à mi-temps, c'était peut-être pas ça que j'aurais voulu faire comme métier, mais les exigences de financières et autres m'ont obligé à faire des activités, dans le fond, qui ne m'épanouissent pas. Et maintenant, à mon âge, je me dis « est-ce que ça va encore durer longtemps ?» Est-ce que vraiment je ne pourrais pas faire autre chose ? Et on peut par exemple faire allusion à cette dame qui, tout d'un coup, a découvert qu'elle avait de très grandes aptitudes artistiques, parce que elle s'est retrouvée un jour dans un atelier à l'occasion d'une rencontre avec des amis, et qui réalise qu'elle a toujours rêvé de faire de la tapisserie, et qui a décidé de s'acheter d'un métier à tapisser, et qui, voilà, à 40 ans, a suivi des cours de tapisserie et a commencé à faire des choses absolument magnifiques, si bien que sans pour autant abandonner son mi-temps comme puéricultrice, par exemple, eh bien, a pu déployer toutes ces dimensions artistiques d'elle-même à travers sa tapisserie qu'elle a découverte. Donc c'est un petit peu chacun qui va découvrir ce qu'il doit faire. Et ça va demander d'essayer des nouvelles choses, de reconnaître des manques, de reconnaître des capacités aussi qu'on n'a pas exploitées. Et voilà. C'est peut-être aussi reconnaître de très grosses colères que l'on a contre les parents parce qu'on a été obligé de subir des contraintes, rentrer dans des modèles qu'on ne voulait pas. Et parfois aussi, il y a un côté règlement de compte ou en tout cas prise de distance par rapport à des expériences familiales dans le passé, ce qui explique d'ailleurs que, au moment de ce passage du milieu de la vie, il peut y avoir de fortes tensions familiales, soit éventuellement par rapport aux parents qui nous ont un petit peu trop contraints, peut-être par rapport au mari ou à l'épouse pour laquelle ou lequel on a fait beaucoup de concessions, par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses. C'est pour ça que ce moment-là est un moment qui peut être aussi un moment douloureux, où on a le courage de laisser remonter un certain nombre de choses négatives. Et je dirais, il ne faut pas s'affoler. C'est très très important que quand on fait face à la situation, on ose reconnaître qu'on a des insatisfactions, qu'on a peut-être des colères contre les parents, qu'on a des peurs par rapport aux conjoints, etc. Et c'est justement en laissant monter tout cela en soi, et en essayant de voir, comme je le disais tout à l'heure, sous l'émotion forte, le besoin qui n'a pas été satisfait, qu'alors je peux arriver à faire un bilan. En me disant, je sais ce que je ne veux plus être, même si je ne sais pas encore ce que je voudrais être. Et ça, bien sûr, c'est un moment crucial. C'est une croisée de chemin, où on a besoin aussi de pouvoir parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un pour voir comment prendre distance par rapport à cela, comment ne pas se laisser emballer par des prises de décision trop rapides, mais comment faire le point avec réalisme. Et donc il y a le deuil d'une certaine façon de fonctionner, comme le masque que j'ai porté. Peut-être pas tellement le deuil de ma jeunesse, mais de la personne que je croyais être et la prise de conscience que j'étais dans une certaine illusion. Alors, d'un côté, ça m'effraie, mais d'un autre côté, c'est un moment extraordinaire de libération parce que je commence à toucher du doigt ce qui a envie de naître depuis longtemps en moi et qui commence à se révéler. Donc voilà, nous sommes dans une période d'insécurité. Jung, je l'ai déjà dit, emploie l'image du soleil qui passe au zénith, qui est le milieu de la vie, et qui glisse progressivement de l'autre côté, révélant d'autres pans de notre paysage intérieur, mais aussi intériorisant sa lumière. Et ainsi, c'est le moment où, dans le fond, derrière le personnage que l'on a construit et qui était nécessaire, apparaît une personnalité qui a été cachée pendant un temps et qui commence à émerger et à se manifester. Et c'est pourquoi Jung dit également « On ne vit pas l'après-midi avec les mêmes règles et les mêmes fonctionnements que la matinée, la première moitié de notre vie. » Et c'est là alors que l'ombre dont je vous ai déjà parlé, l'ombre donc de toute cette partie inconsciente en moi où ont été refoulées à la fois des choses négatives, mais même des choses positives, des capacités, des rêves, des aspirations que je ne pouvais pas me permettre de réaliser ou d'honorer pendant la première partie de ma vie et que donc j'ai laissé de côté en me disant que bon, il faut que j'en fasse le deuil. Et voilà que justement, lorsque j'ose regarder cette ombre, je la laisse émerger, je prends contact des sentiments qui m'habitent, alors tout d'un coup je vois qu'il y a des choses auxquelles il faut que je renonce, parce qu'elles sont négatives ou parce qu'elles ne sont plus réalistes, mais d'autres aspects de moi-même qui sont des attentes, des potentialités, des virtualités qui sont là, et qui dans le fond n'attendent qu'un signal pour se révéler. Alors donc, cette prise de conscience de mon processus d'individuation, que je suis en transformation, et que cette transformation fait partie de la vie, et que cette transformation peut aller vers un mieux, eh bien me permet de découvrir en fait que c'est une expérience qui peut être très positive. Et d'un point de vue spirituel ou chrétien, ce serait peut-être aussi découvrir quelle est ma vraie vocation profonde, ou quels sont certains charismes qui sont en moi, des capacités spirituelles, des dons que je n'ai pas eu l'occasion de laisser vivre et qui, à travers l'évolution du milieu de ma vie, mais aussi peut-être la participation à des groupes de prière, j'ai découvert qu'il y a là aussi tout un potentiel spirituel, charismatique, religieux en moi dont je n'ai pas tenu compte, que je n'ai pas laissé vivre et qui aujourd'hui pousse, bouge en moi et m'invite à revoir des choses. Donc, la clé d'une réussite de ce processus d'individuation, c'est d'avoir le courage d'aller regarder. C'est la première condition, c'est « suis-je prêt à m'engager dans un processus de discernement avec les choses difficiles dont je vais prendre conscience ?» Comme par exemple, justement, le fait que je me rends compte que depuis très longtemps, j'en veux énormément à tel membre de ma famille. Ça peut être un frère ou une sœur avec qui je suis en concurrence, ça peut être mon père ou ma mère, peu importe. Mais en même temps, d'un autre côté, de très belles choses, pour lesquelles je peux maintenant ouvrir la fenêtre et laisser le déploiement se réaliser. Donc ça, c'est la troisième étape, le face-à-face avec ce qui est en train de bouger, avec l'ombre qui émerge, avec l'inconscient qui commence à se libérer et venir à la conscience, avec tous les défis que cela implique, mais aussi, bien entendu, toute la déstabilisation que ça provoque. Parce que du coup, évidemment, dans mes comportements, que ce soit avec mon conjoint, dans ma vie professionnelle, il y a plein de choses qui vont jouer. Alors la quatrième étape, eh bien justement, c'est en ayant fait ce bilan, en ayant osé me confronter à tout ce qui est en train de bouger en moi de positif et de négatif, il arrive un moment où il faut que j'intègre tout cela. Comment vais-je arriver à reprendre les différents bouts de fil de mon histoire passée, de ce qui monte aujourd'hui, etc., et reconstruire la tapisserie de tout cela, sachant que dans cette tapisserie, dans les fils, il y a souvent un fil d'or et un fil sombre qui sont entrelacés, parce qu'il y a beaucoup d'événements ou d'aspects de nous-mêmes qui ont une face sombre et une face plus lumineuse. Ce grand mouvement de l'Esprit Saint en moi, tout ce grand mouvement de mes émotions, toutes ces remontées de mon passé qui m'ont bien agité, ont besoin maintenant de s'unifier et de s'apaiser pour arriver à ce consentement qui est de reconnaître, oui, il y a des choses à revoir, il y a des priorités à revisiter, il y a des relations peut-être à interrompre. Il y a des distances à prendre avec certaines personnes, surtout par exemple si certaines relations d'amitié ou même familiales sont nocives, parce que nous pouvons avoir des relations même dans la fratrie qui sont nocives, ou même vis-à-vis des parents. Et parfois, prendre ces distances vis-à-vis de ses parents, c'est un acte de survie, parce que vous avez des parents qui peuvent être interventionnistes et dévorateurs dans le couple de leurs enfants, et où il y a un moment, il faut leur dire « on aimerait bien pouvoir exister pour nous-mêmes ». Donc voilà, les choses commencent à s'identifier, un consentement à une transformation commence à se mettre en place, la confusion commence à diminuer, surtout si j'ai fait l'effort de dialoguer avec quelqu'un, de prendre des notes, de faire le point régulièrement, et si possible, et c'est très souhaitable, avec mon conjoint, si je suis en couple, ou avec ma communauté, ou mon accompagnateur spirituel, si je suis consacré, vivant en communauté ou étant accompagné. Des doutes, des questions vont rester, mais j'accepte cet inconfort. Parce que je prends conscience que cet inconfort est en fait le prélude à quelque chose de beau, de nouveau, qui va me demander des renoncements, des morts quelque part, à des choses qui ne sont pas positives, et des éclosions vers de nouvelles réalités. Je suis donc invité dans ce travail d'intégration et d'unification à m'ajuster à qui je suis profondément, à avoir plus de cohérence avec moi-même, me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai subies, qui m'ont fait du mal, qui ont provoqué des fonctionnements qui me demandent parfois beaucoup d'énergie, mais qui dans le fond, je l'ai fait pour pouvoir continuer à vivre avec les autres, mais en fait c'est pas moi. Et ça, c'était aussi dépendant de mon regard des autres. Comme je le disais, la première moitié de notre vie, nous essayons de nous ajuster aux attentes des autres, de façon à pouvoir réussir, trouver sa place dans la société, être accepté, etc. Mais il y a un moment où ça ne va plus, on ne veut plus, où dans le fond, la satisfaction relative que l'on tirait de cette reconnaissance ne nous satisfait plus. Parce que quand je rentre dans mes profondeurs, quand je rentre dans mon intériorité, cette approbation extérieure, ce regard qui me valorise, cette recherche de coquetterie ou de vanité commence à me paraître tout à fait secondaire. Et dans le fond, j'ai envie d'être moi-même, j'en ai assez de trahir mon être profond pour être accepté. Et ça, vraiment, quand je peux reconnaître ça, par souci d'honnêteté et d'intégrité intellectuelle, psychologique, spirituelle, et que je peux arriver à refuser ce qui me nie, ce qui est contraire à mon identité profonde, et j'ose dire oui ou j'ose dire non, en me positionnant et en tenant compte de mes besoins, alors là, l'intégration peut commencer. Et là, on peut dire qu'il y a d'une certaine façon trois dimensions. D'abord, je réalise ce qui n'est pas juste dans cette mise en conformité de ma vie et des contraintes. Et donc, j'ai à faire le discernement de ce qu'il faut que je refuse désormais. Ensuite, découvrir que j'ai la latitude pour choisir des choses que j'ai laissées de côté et que je commence à redécouvrir et qui émergent à travers mes rêves, à travers mes émotions, à travers mon évolution physique, psychologique, spirituelle. Et aussi, par souci de réalisme, l'acceptation de renoncer à certains rêves qui ont été très importants dans le passé, mais qui aujourd'hui sont impossibles. Et donc, le passé reste le passé, et on ne va pas le réécrire. Mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans le passé et qui sont encore viables et qui sont pour l'aujourd'hui. Donc, le processus d'individuation invite à un chemin d'intégration, d'unification qui peut durer longtemps et qui va impliquer des deuils, des réconciliations, des guérisons même et le dépassement de frustrations anciennes. Et ça, c'est très important parce que il peut arriver que nous gardions dans notre mémoire des souvenirs, des blessures, d'épreuves, de traumatismes qu'on a vécu dans le passé et qui continuent à agir en nous. Alors, autant il est important pour pouvoir guérir que ces blessures et ces traumatismes soient reconnus et qu'on en prenne soin, autant il arrive un moment où il faut pouvoir dire « ça suffit, je ne suis pas qu'une personne traumatisée, j'ai été humilié, il y a des choses que je n'ai pas pu faire et que je ne pourrai plus faire, mais je vais arrêter de ruminer, de me lécher les plaies, de me plaindre, et je vais choisir la vie. » Et ça, c'est ce chemin d'intégration, de choix de vie. Alors la cinquième étape, c'est quoi? Mais d'une certaine façon, c'est la mise en place de cette évolution qui prend des mois, peut-être des années, où grâce à une meilleure connaissance de moi, et là l'intelligence émotionnelle et le discernement spirituel sont très importants pour grandir en liberté intérieure, Grandissant dans cette liberté intérieure, sachant ce que je veux et ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus, ayant découvert des possibles en moi que j'ai laissés en friche, alors voilà, maintenant je me rends compte que il y a une certaine façon, une maturation qui se fait, surtout si j'ai eu le courage d'aller au-delà des résistances au changement. Parce que fatalement, partir vers l'inconnu, créer des nouvelles choses, rompre avec certaines personnes, revoir peut-être ma façon de fonctionner dans mon couple ou dans ma communauté, tout ça, c'est quelque chose qui demande du courage. Mais voilà, ayant eu ce courage, ayant osé, ayant découvert que je n'en suis pas mort en route, mais qu'au contraire j'en suis plus vivant, j'arrive à un élargissement de ma conscience, de mes possibles, de mes choix. Je deviens beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérant pour les autres, je m'accepte beaucoup plus moi-même. J'arrive à une maturité spirituelle qui fait que je me sens beaucoup plus en communion avec mon Dieu, en fidélité avec ma vocation. Et là, vraiment, ce processus d'individuation qui se fait là me permet progressivement de réaliser cette image de Dieu en moi. Je deviens de plus en plus fils, fille bien-aimée du Seigneur en étant le plus possible moi-même. Et bien sûr, un des indices les plus importants que j'ai fait le bon choix, c'est la paix intérieure à laquelle je suis arrivé. Ce qu'on appellera en termes ignatiens la consolation, c'est-à-dire ce sentiment de plénitude et de justesse. Et nous pouvons reprendre alors aussi l'expression de saint Augustin qui disait « Tu nous as fait pour toi, mon Dieu, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Et maintenant que je suis ajusté à mon désir profond, que je me suis réconcilié avec mon passé, que je comprends mieux quelle est mon identité et ma vocation aujourd'hui, mon cœur entre dans le repos parce que je suis en Dieu. Et là, on peut dire qu'alors le processus d'individuation arrive à son aboutissement, c'est-à-dire je suis de plus en plus moi-même, j'ai intégré mon histoire et mon passé, je laisse vivre les promesses et les possibles que j'ai laissés de côté. J'ai retrouvé ma source intérieure, où j'y ai découvert le visage du Christ, pour un chrétien. Et ainsi donc, renouant avec cette personne profonde que je suis et que j'ai dû mettre entre parenthèses pendant une certaine période, eh bien, j'entre dans cette intégration. Sur le plan que ce soit la santé, les aptitudes professionnelles, les relations familiales, tout ça s'unifie. Et je rappelle que nous sommes des êtres complexes et multiples, que nous sommes des êtres qui ont à la fois une dimension corporelle, une dimension affective, une dimension spirituelle, une dimension intellectuelle, et que tout ça est en interaction continuelle. On parle beaucoup aujourd'hui d'approche holistique pour parler d'approche intégrale. Eh bien, si, sur ce chemin-là, j'ai essayé de tenir compte à la fois de mon corps qui est en train de vieillir, de mon affectivité grâce à l'intelligence émotionnelle, de ma vie spirituelle grâce à un discernement plus profond, et puis des grandes questions des sens, du sens de ma vie, du sens de la vie en général, en utilisant mon intelligence et ma raison, eh bien, je peux dire que j'arrive à un équilibre qui va être en évolution, parce que ce n'est pas un stade final, mais un équilibre nouveau qui fait que la deuxième moitié de la vie, je vais la vivre beaucoup plus sereinement et avec une nouvelle fécondité.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.